Pour le seul port de Saint-Malo, sur 316 voiliers pêchant entre 1874 et 1940, 180 navires ont disparu.
Mourir en mer.
Michael Dutton, matelot qualifié. Peter Miles Calamy, aide-charpentier. John Allen, maître de manœuvre. Nous confions aux abîmes le corps de ces marins, jusqu'au jour de la résurrection, où la mer nous rendra ses morts engloutis pour qu'ils vivent éternellement. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Si c'est à bord que vous mourrez, ce sera généralement sans le secours d'un ministre de votre religion. Le capitaine prononcera quelques mots et hop, ce sera l'immersion sans davantage de cérémonie. Et si pire, vous vous noyez, ce sera encore moins une bonne mort. On comprend que certains villages des côtes de la Manche aient pris l'habitude, la nuit du 1er au 2 novembre, de creuser des tombes fraîches pour donner le repos à ces victimes du mauvais sort. Présentement, sur les côtes méditerranéennes de l'Union européenne, arrivent en clandestin nombre d'hommes, de femmes, d'enfants. Les hotspots que veulent mettre en place les autorités de l'Union européenne procéderont par priorité à leur identification, photographie, prise d'empreintes, etc. Mais surviennent aussi des morts, ceux qui n'ont pas coulé par le fond. La moitié des migrants rejetés par la Méditerranée depuis 1990 n'ont pu être nommés. Le maire de Palerme, en Sicile, que le sujet requiert depuis des mois et des mois, observe que leur identification importe, elle aussi. Il dit même que c'est un dû. Et il veille à faire poser une fleur sur chaque dépouille, à organiser une cérémonie interreligieuse et à offrir à chacun une sépulture digne. Comment prouver sinon que ces hommes, ces femmes, ces enfants ont vécu ?
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Alain Cabantous, 2 novembre, bonjour.
Bonjour, Jean Lebrun.
Alors vous êtes un bon connaisseur de l'identité maritime des citoyens du large. J'emprunte peu ou prou le titre de tel ou tel de vos livres. Le jour des morts, le 2 novembre, on va parler du monde européen chrétien, surtout aujourd'hui, du moins dans la première partie, il est des ports de pêche où on ne pêchait pas.
Oui, les marins pensaient que pêcher en mer le 2 novembre risquait de rapporter dans les filets les ossements de celles et de ceux qui étaient morts et qui avaient été engloutis par les flots.
Mourir en mer, là, mal mort, parce que on n'a pas de confesseur, on n'a pas de prêtre, on a peut-être un capitaine qui peut remplacer le prêtre, mais...
Alors, mourir en mer, c'est une mauvaise mort pour plusieurs raisons. La première, vous venez de l'évoquer, c'est qu'on n'a pas de capitaine. Lorsqu'on meurt en mer, je dirais malade, car sinon la majorité, du moins la plupart de ceux qui meurent en mer, meurent malades. Il y a une étude qui a été faite par une historienne sur les flottes espagnoles du XVIIe siècle, c'est 40% des gens qui meurent en mer meurent malades, mais 20% meurent noyés. Et puis le reste au combat, etc., etc. Donc quand on meurt malade, malheureusement, on est entouré par les siens, peut-être par ses amis, mais on n'a pas de, notamment dans le monde catholique, pas de sacrement d'extrême onction. Et pire encore, lorsqu'on meurt en mer, par exemple noyé, lorsqu'on tombe d'un mât de 30 mètres, lorsqu'une vague vous emporte, et là c'est la mort subite. Et la mort subite, évidemment, c'est la mort, je dirais, la pire pour les chrétiens et pour les catholiques.
Alors, on met en place, avant de partir, toutes sortes de pratiques propitiatoires.
Les pratiques propitiatoires concernent d'abord, évidemment, ceux qui portent les hommes, c'est-à-dire le bateau. Et un bateau n'est pas baptisé, comme on l'a dit, mais il est béni. Ça, c'est une première pratique, une pratique régulière. Et puis, en même temps, les hommes y ajoutent des choses, notamment à la proue. Par exemple, en Italie, pendant très longtemps, on sacrifie un bélier ou un mouton et on met la peau de ce bélier ou de ce mouton à la proue du navire en estimant que la mère a eu un sacrifice déjà. Et donc, elle n'en demandera pas d'autre. Voilà. On a aussi des pratiques qui sont plus individuelles.
Je vous vois porter la main à votre veste, c'est-à-dire qu'on y met des images pieuses dans
veste. Pour certains, ce sont des images pieuses, pour d'autres, ce sont par exemple des bouts de cierge qui ont été allumés à Noël. Pour les Marseillais, ce sont des restes de repas de Noël qui a été béni et qui porterait bonheur. Par exemple, lorsqu'il y a une tempête, on jette à ce moment-là ces bouts de pain à droite et à gauche, et lorsque ça ne suffit pas, on jette même les évangiles à droite et à gauche pour se prémunir de la tempête. Alors évidemment, ce qui se passe, c'est que chez les protestants, il n'y a pas de ça. Alors, donc, si on se rend compte parfois que les marins protestants demandent à des amis catholiques de leur fournir quelques reliques qu'ils vont quand même garder par devers eux, au cas où.
Mais les protestants qui font semblant de refuser ces pratiques superstitieuses, on voit chez eux, dans l'Europe du Nord, se développer toutes sortes d'histoires étonnantes, de revenants, de Hollandais volants, etc.
Tout à fait. Mais chez les protestants, effectivement, les pasteurs vont essayer, par exemple, soit dans le monde anglais, soit aux Provinces-Unies, ou donc aux Pays-Bas actuellement, d'écrire des livres de prières, de réconfort, qu'on lirait éventuellement au moment où la mer risque de vous engloutir.
Revenons, si vous le voulez bien, à ce que vous appelez l'Europe celtique. Vous parliez de la bénédiction des bateaux, phénomène souvent relativement tardif. Les pardons qui regroupent toute une flottille qui va partir à l'aventure le sont encore davantage. Tardif, le pèlerinage des Terre-Neuve à Saint-Malo date seulement de 1925. Il s'agit de se protéger des dangers de la campagne, la pêche à la morue au large, avec des Doris qui s'échappent avec deux marins seulement des grands bateaux. Il s'agit aussi de se protéger des dangers que présentent les caboulots de la rue de la Soif au moment où on rassemble les équipages et où les capitaines cherchent des marins.
C'est un peu ça aussi, oui. Oui.
Reportage qui ne va pas du tout dans ce sens de la Radio Nationale. Reportage très pieux, février 38.
Et nous voici maintenant sur les remparts au bastion dit la Hollande, qui domine la mer. Et le vent de tempête emporte les paroles de l'archevêque et du curé, qui bénissent la mer et qui évoquent en même temps les noms de tous les marins qui ne sont pas revenus de la dernière campagne. Je forme un vœu, c'est que le vent s'apaise, et il y aura peut-être moins de femmes qui trembleront lorsqu'au bout du môle, la main sur les yeux, elles verront disparaître vers la ligne de l'horizon le bateau qui emporte les êtres chers.
Personne n'est capable de comprendre tout ce qui vous passe par la tête. Quand je me suis vu plonger par-dessus le bord arrivé à la flotte, je voyais toute ma vie vécue. Pour moi, c'était fini. Ma femme, je ne la reverrai plus. Mes copains, c'était fini. Puis tout d'un coup, j'ai repris surface. Tout ce que vous venez de penser, là, tout de suite, tout ça, c'est oublié, ça. Vous ne pensez plus qu'à une seule chose. C'est d'essayer d'agripper quelque chose pour pouvoir vous sauver.
À Terre-Neuve, rescapé, monsieur Dubost, au micro d'Alain Michel Blanc. Là, on n'est plus en 1938, on est en 1985. Nul ne saura leur fin dans l'abîme plongé. Nul ne sait votre sort, pauvre tête perdue, heurtant de votre front mort des écueils inconnus. Victor Hugo, Océanodox.
Nous avons tous appris.
À peu près tous, oui. On attend un secours aussi, quand on se retrouve dans cette situation que décrit si bien Victor Hugo, des populations des îles et des côtes.
La plupart des naufrages, ou la plupart des accidents, ont lieu à proximité des côtes. Et c'est la raison pour laquelle, le long de ces côtes, s'organisent des confréries, dites des confréries de trépassés, qui sont chargées de veiller à s'occuper des cadavres que la mer rejette. Parce que le problème est bien là. Lorsqu'on meurt en mer, on est immergé, bien entendu, avec ou sans cérémonie, ça dépend d'un certain nombre de circonstances. Et on est lesté, le corps est lesté. Il est lesté avec des pierres, il est lesté avec des sacs de sable, il est lesté avec des jarres, avec tout ce qu'on possède, parce que l'idée c'était que quand le corps touchait le fond de la mer, il revenait en définitive vers la terre. Mais très souvent, ce qui se passe, c'est que le corps remonte parfois. Évidemment, c'est un très très mauvais présage pour le reste de l'équipage. Robert Schall le décrit très bien dans son journal en disant: le corps de tel matelot est remonté, quel sera le prochain ?
Alors, un corps qui remonte, qui ne coule pas par le fond selon les procédures normales. Je reviens aux prières propitiatoires, cette fois des gens des côtes. Les gens des côtes peuvent abréger son séjour au purgatoire ou dans des lieux incertains et inconnus pour le ramener dans le sillage
oui,
de la communion chrétienne.
Absolument. Encore faut-il qu'ils sachent que telle ou telle personne est décédée. Encore faut-il que la communauté soit au courant. Autrement dit, il se passe toujours un laps de temps, je dirais une période d'incertitude totale entre l'accident mortel qui s'est passé et, je dirais, la communion des vivants et des morts.
Puisqu'on est dans la Bretagne catholique, les intersignes permettent quand même de savoir ce qu'il advient de ceux qui sont déjà morts. On va maintenant aller vers une terre limite, vers l'île d'Ouessant, qui cristallise évidemment beaucoup de récits concernant les trépassés. Plus que la baie des trépassés,
la baie des trépassés
qui est maintenant un paradis des dieux surfeurs.
C'est ce que vous m'avez appris.
Oui, mais qu'est-ce que c'était ?
C'était une baie, tout simplement.
Ah bon ? Et le mot trépassé a été appliqué folkloriquement tardivement. Tandis que, à Ouessant, les coutumes concernant les morts en mer, c'est du sérieux.
Qu'est-ce que c'est ? C'est la cérémonie des Proélas. Ça veut dire le retour des âmes au pays. La Kifratir représente le corps d'un marin perdu en mer. Les hommes d'ici l'avaient presque tous.
Quand on était sûr qu'il y avait un mort et que le corps était disparu, on allait au presbytère demander à faire une messe d'enterrement. Alors, ils donnaient une petite croix de cire qu'on mettait sur la table, on mettait un linge blanc et tout, comme s'il serait été un mort. Et alors, on passait la nuit et on disait des prières. Et le lendemain, dans la matinée, on faisait une cérémonie comme s'il y aurait eu un enterrement à l'église. Et les petites croix de Broella, comme on dit, restaient dans l'église. Et alors, on les envoyait tous là-bas, au cimetière, où on a mis le petit monument, là, où on a mis dessus les croix de Broella. Juste au milieu du cimetière, un petit monument.
Un pays d'ici, signé Geneviève Ladouès à France Culture en 1988, soit 26 ans après le dernier Proella attesté en 1962.
Oui.
Alors, le Proella consiste à chercher, avec des croix de substitution, à évoquer le souvenir des morts absents.
À évoquer le corps. Pas seulement le souvenir d'abord, mais le corps. Et c'est très important. C'est Françoise Perron qui dit que la communauté ne veut perdre aucun de ses membres. Et par conséquent, ces croix de Proella, dont la personne a parfaitement décrit la cérémonie, ces croix de Proella représentent le corps. D'abord pour la famille dans la veillée mortuaire, et ensuite le lendemain, l'enterrement, qui n'est pas vraiment un enterrement, puisqu'on n'enterre pas, mais on va mettre cette croix, au terme de la célébration des funérailles, on va la mettre dans une petite urne qui, aujourd'hui encore, se trouve au centre du cimetière d'Ouessant, qu'on peut voir.
Et... où il y a un espace des trépassés, alors, pour le coup.
Oui, mais cet espace est extrêmement réduit. C'est simplement une urne, hein, marquée croix de Proella.
Avant l'extrait du Pays d'ici, on a entendu un morceau du film de Grémillon, tourné à Ouessant, avec l'institutrice qui parlait de Fernande, la veuve qui avait si bien réussi au certificat d'études. Mais c'est une figure importante parce qu'elle a très bien réussi au certificat d'études, mais surtout parce que c'est une veuve. La figure de la veuve, elle porte un savoir particulier, une dimension particulière.
Mais la figure de la veuve participe, je dirais, plus que dans tout autre type de société du monde maritime. Alors, évidemment, avant que ce soit la figure de la veuve, c'est d'abord la figure de la femme de marin. Il ne faut pas imaginer ces femmes de marin comme étant un petit peu à l'image de ce qu'on voit dans Le Pêcheur d'Islande, en attente permanente du retour des marins.
Au contraire, parfois.
Au contraire, mais en même temps, lorsque le retour s'approche, ou lorsque les jours de retour arrivent, et que les premiers bateaux reviennent, elles sont quand même angoissées, c'est normal. Et en même temps, ce qui est très important, c'est que lorsque les marins sont en mer, tout au moins les bateaux de pêche, les flottilles de pêche, eh bien, elles se retrouvent spontanément lorsqu'il y a, par exemple, un très très mauvais temps, une tempête dans leur village. Elles se retrouvent en pensant que la même tempête atteint à ce moment-là, leurs frères, leurs maris, leurs pères, et elles se retrouvent autour, à l'église, autour du calvaire, pour prier.
Et une fois la mort enregistrée, elles prennent une autre stature, non ?
Alors, une fois la mort enregistrée, d'abord très peu se remarient. Quand elles se remarient avec un marin. Donc le risque est renouvelé. Et en même temps, ça ne change pas fondamentalement, je dirais, leur statut. Ça change leur, évidemment leur statut social, mais leur statut matériel, ça ne le change pas, puisque ce sont les femmes qui sont habituées à gérer l'absence de l'homme. Donc elles participent véritablement de la vie de la communauté, et ce sont elles qui vont, au moins au XVIIe ou au XVIIIe siècle, par exemple, dans le monde religieux, faire le lien entre l'Église et leurs hommes, et leurs maris ou leurs frères, pour essayer de les christianiser un peu plus.
Le père Monnoir, qui était un grand apôtre, missionnaire en Bretagne, avait par exemple, pour mieux christianiser Ouessant, où le catholicisme s'était implanté tardivement, utilisé une veuve du Conquet.
Tout à fait.
Hein, qui s'appelait Jeanne Le Gall et qui était une missionnaire à elle seule, à cause de son statut de veuve. On a parlé de l'Europe celtique, on a parlé un peu de l'Europe protestante. Il y a aussi, vous indiquez très bien ça dans vos différents travaux, notamment votre livre sur les identités maritimes, Alain Capantous, l'espace méditerranéen vers lequel on va se diriger maintenant, puisque on y compte d'innombrables morts de migrants sur la mer, migrants que chante ici Fatoumata Diawara. C'est une chanteuse du Mali. Pour aller à l'aventure, chercher de l'argent, ils ont laissé leur mère à la maison. Ils ont laissé leur père à la maison.
San kelen fila saba nani duro woro wolon fila segi konontan chamambasa chamambasa
papu chamambasa
ulube san kelen fila saba nani duro woro wolon fila segi konontan
La marche de l'histoire. Jean Lebrun. Sur France Inter.
L'un des passeurs est en maillot de bain. C'est lui qui a démarré le bateau. Soudain, il plonge dans l'eau et regagne la rive à la nage.
Non.
Désormais, nous sommes seuls. Et celui qui est chargé de nous conduire à Chios est un réfugié. Il n'a aucune notion de navigation. Nous partons dans la mauvaise direction. C'est mon GPS qui, finalement, nous donnera le bon cap. On est entassés, on est les uns sur les autres. C'est pour ça que les enfants, ils pleurent. Ils sont vraiment entre nous, pris en sandwich. Les parents ont tellement peur qu'ils tombent dans l'eau qu'ils les ont vraiment mis au milieu du bateau. Je suis vraiment près de l'eau.
Ça bouge beaucoup.
Il y a des vagues, il y a des grosses vagues. Il est 3h du matin. On devait partir de jour, on part de nuit. Mais on tient le cap là, on tient le cap, on voit les lueurs, les lumières. Chios scintille au loin.
Ce 2 novembre, notre thème, mourir en Méditerranée, avec Alain Capantous. On entendait, nous avons été nombreux à l'écouter, ce reportage d'Omar Waman, notre correspondant à Beyrouth, qui s'était acheté un gilet de sauvetage et qui est parti avec une famille syrienne depuis la Turquie. Là, il est en route, et avec quel danger, vers les premières îles grecques. C'est étonnant quand même pour un historien, Alain Capantous, parce que vous décrivez une progression des conditions techniques de la maritimité. Il y a des bateaux porte-conteneurs, on se demande comment ils peuvent tenir sur l'eau, et des sous-marins les plus subtils possibles. Et là, on est revenu à l'époque même pas des rafiaux, des radeaux.
Je ne sais pas ce qui se passait dans l'histoire ancienne, l'histoire antique, mais faire naviguer des embarcations de cette forme-là, de ce type-là, c'est impensable à l'époque. Pourquoi ? Parce que le bateau n'est pas fait, à l'époque moderne et à l'époque médiévale, et même à l'époque contemporaine, le bateau n'est pas fait d'abord pour transporter des réfugiés, les laisser livrer à eux-mêmes. Il est fait pour transporter des marchandises, essentiellement. Et là, lorsqu'on voit des reportages, on est étonné de la qualité, enfin, la médiocrité, ou pour ne pas dire la fragilité même de ces embarcations.
Et puis, l'historien sait que peu à peu, une loi internationale s'était établie qui disait, quand il y a des naufragés, on fait tout pour les sauver, et aussi pour récupérer les corps. Là, il y a un retour en arrière par rapport à la loi internationale qui s'était mise en place et qui était intériorisée.
Absolument. Ce qui est très intéressant, c'est que autant les populations littorales le faisaient spontanément avant cette législation internationale que vous venez de rappeler, autant on a l'impression aujourd'hui que les corps arrivent et que les gens des côtes doivent se débrouiller avec.
Voilà. Alors, on va prendre, si vous le voulez bien, d'abord le premier exemple, c'est Lampedusa, avec notamment tout ce qui s'est passé après les grands naufrages d'octobre 2013. Alors, les gens de Lampedusa s'y habituaient déjà qu'ils étaient à l'arrivée des migrants et à l'arrivée des cadavres. Là, se sont trouvés pendant quelques jours saisis par une véritable tragédie, au point qu'après, beaucoup de pêcheurs ont hésité à jeter leur filet, beaucoup de plongeurs ont encore plongé. Parce qu'ils avaient vu des choses terrifiantes.
Absolument. Et la mer devient à ce moment-là ce non-lieu. C'est-à-dire un non-lieu pour ceux qui sont morts en mer, puisque ils sont morts, je dirais d'abord, de façon tragique, et ensuite dans un anonymat total lorsque leur cadavre arrive, et non-lieu pour ceux qui utilisaient la mer comme espace économique, puisque désormais on comprend que cette dimension macabre et terrible puisse constituer un élément totalement répulsif pour eux.
Alors les gens de Lampedusa avaient déjà l'impression d'être abandonnés parce qu'ils étaient très éloignés des côtes de l'Union européenne, mais on a vu, vieille tradition des populations littorales que vous évoquez souvent, Alain Cabantous, reprendre un peu la tradition des confréries.
Tout à fait. C'est-à-dire essayer de recueillir les cadavres, de les identifier. Si on pouvait, mais l'identification, là, à l'époque moderne, c'est une identification, je dirais, confessionnelle. Essayer de savoir si ces gens-là avaient une croix, avaient un chapelet, pour faire une cérémonie religieuse ou pour les enterrer simplement.
Alors maintenant, l'identification, ça consiste aussi à chercher le maximum d'éléments par la photographie, voire par l'ADN, pour ensuite pouvoir dire aux familles, quand elles le demanderont plus tard, si les corps ont été nommés.
Mais ça, c'est quelque chose qui traverse la culture européenne, et c'est Pénélope qui dit à Télémaque, par exemple, tu veux prendre la mer et tu veux que personne ne se souvienne de ton nom. Autrement dit, il y a toujours cette dimension de perte même d'identité lorsqu'on meurt en mer. C'est ce risque-là.
Et puis c'est Antigone qui dit à Créon, c'est ton devoir d'enterrer celui que nous pleurons tous. Voici deux témoignages. Le premier, il est signé Martine Abbat, elle travaille pour France Inter. Et elle a trouvé une bouteille dans une île à côté de la Sicile où elle passait ses vacances, laquelle contenait un message en arabe de réfugiés qui étaient passés par l'Afrique du Nord. Elle est allée en Tunisie, là où ils étaient passés. Le deuxième témoignage, lui, vient de Berlin.
Il y a le poteau d'électricité là-bas. Et bien, c'est là-bas. Dans ce cimetière là-bas, il n'y a que des migrants enterrés ou c'est un cimetière où il y a aussi des habitants de Zarzis?
Non, c'est un spécial pour les immigrants. Lorsqu'il y a un cadavre, j'y vais, moi et le médecin de l'État. C'est dur, mais j'y suis habitué maintenant. Depuis des années, j'ai fait ça, mais on a le manque de matériel. Il faut les moyens de protection, moyens de transport, tout. Et nous, on n'a pas.
Vous n'avez pas.
Un gant normal, un bavette normal, avec nos souliers, il n'y a pas de protection. Mmh. Et ça coûte pour l'État.
Cet enterrement est celui d'une femme dont on ne connaît pas le nom. C'est ici, à Berlin, qu'elle va désormais reposer grâce à un collectif de militants. Elle était syrienne, elle avait 34 ans et elle est morte noyée en Méditerranée au large de la Sicile. Un autre cercueil suit le sien, plus petit et vide, celui de son bébé de 2 ans, jamais retrouvé.
Nous sommes réunis aujourd'hui pour dire au revoir à une victime de la guerre de l'Europe contre les réfugiés.
Le transport du corps et la cérémonie ont été financés par une collecte de fonds sur Internet. L'objectif, offrir une sépulture digne et personnelle à cette femme anonyme.
Tous ceux qui considèrent que notre action est de mauvais goût, je leur recommande d'aller faire un tour aux frontières sud de l'Europe. En accueillant ces morts ici, nous leur donnons une sépulture digne de ce nom.
Il y a une dimension politique dans ce que fait le Centre pour la beauté politique de Berlin, qui se réclame d'ailleurs d'Antigone. Mais qu'on pense ou non que le cadavre est un lieu politique, on retrouve toujours la même préoccupation à la Cabanteuse du cimetière comme cadre spatial pour la mémoire.
Et oui, puisqu'il faut bien que la famille ou les proches trouvent un lieu de recueillement, un lieu de mémoire, un lieu de souvenir, un lieu aussi où la construction de l'histoire familiale se fera. Et par conséquent, mourir en mer, c'est aussi mourir sans laisser de traces tangibles. C'est la raison pour laquelle vous évoquiez tout à l'heure ces fameuses tombes ouvertes entre la
le premier
nuit
et le 2 novembre.
Mais il y avait aussi d'autres subterfuges, d'autres considérations comme ces murs des trépassés qui existent dans plusieurs cimetières bretons où on met des plaques au nom de ceux qui sont morts en mer, de façon à ce que les familles puissent avoir un lieu de recueillement.
Parce qu'on nous parle de sécularisation d'une part, on nous parle de dénégation de la mort, et on voit en tout domaine des démarches semblables à celles que nous avons évoquées pour les morts en mer, les morts anonymes de la rue.
Tout à fait.
On publie des annonces dans les journaux avec leur nom. Ce maraîcher breton à Auray, au mois d'octobre, qui a déposé 600 croix devant la basilique en mémoire des agriculteurs qui sont nombreux à se donner la mort chaque année.
Tout à fait. Ça fait partie de cette espèce de volonté de construire une mémoire, qu'elle soit individuelle, familiale ou collective, et même, d'ailleurs, dans le monde protestant, à partir de, probablement dans les villes portuaires des années 1830-1850, on va mettre des plaques dans les temples avec le nom de ceux qui sont morts en mer.
Au flot, je finis avec Victor Hugo. Que vous savez de lugubres histoires, que de vieux parents qui n'avaient plus qu'un rêve sont morts en attendant tous les jours sur la grève ceux qui ne sont pas revenus. Et sur une autre tonalité, pour finir, Jacqueline Tabarly, c'était aux obsèques de son époux en 1998.
Il n'est pas courant qu'ici les femmes prennent la parole. Aussi bien ne suis-je que la voix de mon mari. Il me pousse aux épaules. La mère n'est pas méchante. Vous dites, la mère l'a pris, mais elle ne l'a pas volé. Elle est la matrice dans laquelle il est revenu et vous ne retrouverez pas son corps.
Dans l'équipe de la Marche de l'Histoire, Marion Philippe, Martin Cellier, Frédéric Martin. La réalisation, Stéphane Ronxin, avec la bretonne du jour, Marie-Christine Thomas, et à la technique, Alice Berger.